Impact, une série de documentaires réalisés dans le cadre de la programmation culturelle VIVO. Impact vous raconte les recherches menées sur l'homme et la nature de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté.
Ça c'est fait.
Sandrine Petit est chercheuse à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, dans un laboratoire de sciences économiques et sociales. Venue nous raconter son travail mené sur le territoire de la communauté urbaine Le Creusot-Monceau, elle commence par nous expliquer son champ de recherche, la géographie sociale de l'environnement.
Ça veut dire que je m'intéresse aux relations entre l'homme et la nature, ou l'homme et son environnement, aux dynamiques sociales et aux dynamiques écologiques, et aux interactions entre les deux. Et par rapport à d'autres disciplines comme la sociologie, en tant que géographe, moi je m'intéresse aussi à l'espace, aux lieux. Et donc ces relations entre les hommes et l'environnement, elles ont lieu dans des espaces. Et ces lieux comptent en fait, il y a un aspect matériel qui compte et qui m'intéresse dans mes recherches. Dans mes recherches, je me suis plus particulièrement intéressée aux relations entre les agriculteurs et, on pourrait dire, des objets de nature, la biodiversité notamment, l'eau plus récemment. Donc ces espaces, ça peut être des prairies, ça peut être des territoires agricoles qui vont m'intéresser. Les représentations, c'est quelque chose d'important, selon moi, parce que c'est le regard qu'on porte sur les choses. Alors derrière le terme représentation, c'est des formes symboliques qu'on peut avoir d'objets. En tout cas, moi, je regarde les représentations que les gens ont de la nature ou de l'eau. Et ces représentations, en fait, c'est le sens qu'on donne aux choses. C'est ce qui compte pour nous. Et selon les gens, les regards sont multiples, les représentations sont multiples. Et parfois, justement, si on n'a pas les mêmes représentations, on ne se comprend pas, il y a des choses implicites. Et révéler ces représentations, c'est permettre d'avancer dans le dialogue et l'échange. J'ai mené un travail d'enquête sur un territoire en Saône-et-Loire qui est un territoire agricole où l'élevage est très très présent. Mais on a aussi une ville, une agglomération importante qui est celle de Monceau-les-Mines. On a une communauté urbaine qui s'appelle le Creusot-Monceau-les-Mines. Et sur ce territoire, les ressources en eau superficielles sont importantes. Il y a d'ailleurs peu, voire pas de nappes souterraines, donc on n'a pas de ressources en eau souterraine, donc on dépend, la population dépend de ressources en eau superficielles. Et donc sur ce territoire, je me suis intéressée à un lac, le lac s'appelle le lac de la Sorme. Il est très important parce qu'il permet d'alimenter en eau potable une grande partie de la population de l'agglomération du Creusot-Monceau-les-Mines, pratiquement 50 000 personnes en dépendent. Et sur ce territoire d'élevage, où on a tout un maillage de prairies et de haies, eh bien, les éleveurs sont interpellés pour changer leurs pratiques, puisque la qualité de l'eau se dégrade au fur et à mesure des années. Et donc, dans ma recherche, j'ai regardé, j'ai essayé d'observer et de documenter les représentations que les gens ont de l'eau et du lac.
La communauté urbaine du Creusot-Monceau est un territoire né de l'industrie. De l'exploitation du charbon dès le XVIIIe siècle à l'industrie sidérurgique, la question des besoins en eau, tant pour l'industrie que pour la consommation des habitants, a toujours été centrale. Pour pallier le manque d'eau de ce territoire, des dérivations de ruisseaux, des constructions de lacs ou de réservoirs sont faites. Jusque dans les années 1970, où l'implantation d'une nouvelle usine Michelin à Blanzy demande à la communauté urbaine d'être en capacité de fournir près d'un million de mètres cubes industriels. C'est ainsi qu'est construit un nouveau barrage sur la rivière Sorne qui ennoie terres agricoles, routes et habitations.
Alors le lac de la Sorme, trois raisons principales ont présidé à sa création. D'abord, dans les années 70, Michelin voulait s'installer sur la zone de Blanzy, donc avec 300 emplois à la clé, donc un besoin d'eau industrielle pour cette usine. Donc c'était une première motivation. Une autre motivation, c'était aussi des besoins en eau potable qui se faisaient sentir. Et en fait, une autre raison, c'était la Bourbince réguler ses crues et ses étiages, les hauts niveaux d'eau et les bas niveaux d'eau. Le lac de la Sorme, il a une forme surprenante. On peut voir sur la carte qu'en fait, à partir de la digue, il y a deux bras, deux grandes branches, et ensuite des sous-petites branches. On appelle ces branches des queues, en fait. C'est les lieux d'arrivée des ruisseaux qui vont irriguer le lac. Donc, il se trouve, on voit, au nord de Mont-Solémy, et puis au nord-ouest de Blanzy, à quelques kilomètres. Il est tout proche de l'agglomération.
À partir des années 1980, la qualité de l'eau du lac se dégrade. Des algues se développent et une charge excessive en matière organique rend les eaux difficiles à traiter. C'est un phénomène d'eutrophisation.
L'eutrophisation correspond en fait au développement d'algues, de cyanobactéries. Donc là, elles dégradent la qualité de l'eau, elles peuvent être dangereuses. Il y a certaines qui produisent des toxines. Donc là, c'est un problème qui se répercute sur la qualité de l'eau. Donc très vite, un grand nombre d'experts viennent au chevet du lac. Et donc, on peut voir à travers les rapports le type de diagnostic, d'expertise sur cette santé du lac qui est produite et ce qui m'a permis de dater finalement à quel moment on commence à s'intéresser à l'état biologique du lac. Avant, on s'intéressait plutôt à son état chimique. Le lac, il est d'abord historiquement regardé plutôt avec des paramètres de température, de stratification de la température dans le lac. Il est aussi regardé avec la composition en éléments chimiques, le phosphore, l'azote, le manganèse, l'ammoniac, les taux d'oxygène. Et puis, à un moment, on commence à le regarder avec ces petits êtres vivants dans le lac. Et là, on voit qu'il y a des éléments biologiques qui interviennent. Voilà. Et ça, c'est intéressant de le voir à travers les rapports. Et puis, les rapports montrent aussi à quel moment on commence à imputer à l'agriculture une certaine responsabilité dans l'état de qualité du lac. Donc là, ça, c'est facile à dater avec les rapports. En 89, il y a un travail qui a été fait et on incrimine, on diagnostique que les jus des fumières, des fermes, vont dégrader la qualité de l'eau du lac. Donc ça, on retrouve tout ça précisément avec les archives. Et c'est important de prendre en compte cette information-là parce que chacun a hérité finalement de ce lac et il faut bien le gérer aujourd'hui. En même temps, c'est toute une histoire et cette histoire, elle est très présente dans la mémoire des agriculteurs parce que beaucoup d'agriculteurs ont perdu des terres et souvent ils disent les meilleures terres qui ont été recouvertes par les eaux lors de du barrage, de la construction de la digue et du barrage de la rivière. Tout d'un coup, les terres ont été ennoyées et les gens qui vivaient là ou qui en tout cas exploitaient ces terres ont vu leurs terres disparaître sous l'eau. Et ça, c'est quelque chose qui marque, qui imprime les mémoires et qui se transmet dans les générations agricoles. Alors dans mes travaux, un des résultats les plus saillants de mes travaux, ça a été de montrer finalement des décalages dans la représentation que les différents acteurs ont du lac. Alors c'est vrai que chez les agriculteurs, moi quand j'ai rencontré les premiers agriculteurs que j'ai rencontrés, d'ailleurs quel que soit leur âge, même les plus jeunes, m'ont toujours parlé de l'histoire du lac et de sa création. Parce qu'effectivement le lac a été créé, c'est pour eux un lac artificiel, on pourrait dire même contre nature. Donc dans leur représentation, ils se représentent vraiment le lac comme un espace artificiel. Il y a beaucoup d'analogies qui sont faites avec les mares. Le lac est finalement une grande mare et il faudrait la gérer comme on gère d'ailleurs ces mares. Hein. Donc ça c'est là où on voit où la représentation détermine l'action et que informer, documenter les représentations nous permettent de comprendre pourquoi on voudrait agir dans telle ou telle direction. Et puis les gestionnaires aujourd'hui du lac sont plutôt sur une approche où le lac est devenu un écosystème et il faut le gérer en tant qu'un écosystème. D'ailleurs il dépend de son bassin versant et de tous les flux qui irriguent le lac. Et en même temps, il y a aussi des oppositions de savoir, parce que effectivement, les savoirs d'expertise sont très importants. Il y a eu beaucoup de rapports d'études, beaucoup d'experts qui se sont penchés sur l'état du lac. Encore récemment, au moment où moi je fais ma recherche, il y avait eu quelques années avant des experts qui étaient venus et ce rapport avait un peu irrité les agriculteurs parce qu'ils n'avaient pas été, selon eux, consultés suffisamment. Et donc, donc ça, c'est cette information qui est produite par des experts, elle est parfois difficile à être reconnue comme légitime par les agriculteurs. Et inversement, les gestionnaires ne considèrent pas forcément comme légitime le savoir des agriculteurs. Et je pense que là, c'est important aussi de reconnaître leur savoir d'observation, parce qu'ils sont là au quotidien. Et une des choses qui m'avait frappée aussi en arpentant le territoire, c'est la présence de l'eau sur tous ces espaces herbagers et notamment la présence de sources. Et en fait, les agriculteurs ont un savoir autour de l'eau parce qu'ils, qu'ils domestiquent l'eau. Il y a un savoir autour de la domestication de l'eau, c'est-à-dire repérer les sources, les aménager, par adduction amener l'eau de la source à un abreuvoir. Ou alors faire boire les bêtes aux rivières. Donc il y a toute une circulation de l'eau qu'ils connaissent, qu'ils ont parfois aussi aménagée. Hein. Parfois les ruisseaux ont été aménagés, calibrés pour faciliter la circulation d'eau ou l'abreuvement. Et donc ce savoir sur la dynamique de l'eau et aussi les dynamiques d'érosion de l'eau hein, qui comptent pour la question du phosphore. Hein. J'avais dit que le phosphore s'accrochait aux particules de sol. Donc ça c'est un savoir qui n'a pas été du tout pris en compte et reconnu. Et c'est vrai que dans mon travail, moi j'essaye de me mettre à jour, de révéler, de parler de ces savoirs, de même que l'histoire qui compte pour les gens, même si c'est une histoire ancienne, hein, presque 50 ans, c'est important, quand ça compte pour les gens, c'est important de reconnaître comme légitime pour ensuite aller plus en avant dans la négociation et parler de changement de pratique, d'aller vers des solutions communes. Et donc c'est vrai que rapprocher des représentations, rapprocher des savoirs, c'est, on pourrait dire avec d'autres mots aussi, constituer un bien commun qu'on peut gérer ensemble. Alors il m'importe dans ma pratique de recherche d'essayer d'être utile, hein, mais c'est très difficile d'être utile aux gens. Pour autant, il me semble que l'intérêt du travail, c'est de révéler des points de vue et d'essayer justement d'aller un petit peu plus en avant dans des situations qui ne seraient pas des situations de conflit et de rapport de force, mais plutôt d'écoute mutuelle. Donc là, je pense que c'est essayer de mettre en avant des représentations et des points de vue et dire que chacun est légitime. Et une représentation, elle n'est ni vraie ni fausse. Peu m'importe, enfin, en tout cas moi c'est pas sur ce point de vue là que j'interviens, elle n'est ni bonne ni mal, mais en fait elle compte juste pour les gens et c'est ça qui va guider leur action. Et donc en parlant de ces représentations, on peut peut-être aller un petit peu plus loin ensemble vers des actions conjointes.
Ce reportage vous a été proposé par Radio Dijon Campus et la mission culture scientifique de l'Université de Bourgogne dans le cadre du projet VIVO. À la réalisation, Julien Grandemange et Joanne Campion. Prise de son, Sandrine Petit.